Morning Edition from NPR News.
Let's see King San Peter House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, vous allez entendre la famille royale dialoguer, vous allez entrer dans les alcôves et croyez-moi, c'est pas le monde des bisounours, ça tacle, ça désingue, ça envoie des coups de couteau dans le dos et en même temps, à 15 jours de son jubilé, vous verrez combien malgré tout ça, dans un royaume secoué de crise en ce moment, la reine reste le point fixe dans lequel le pays se retrouve et c'est Marc Roche qui nous racontera tout ça dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est à Gaza, un an après la guerre qui a fait 260 morts côté palestinien. Gaza ne va pas mieux aujourd'hui, elle subit aussi le conflit en Ukraine et craint surtout aussi une nouvelle guerre. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé des tempêtes de sable à répétition au Moyen-Orient, des soins dentaires à la maison, faute de dentiste en Grande-Bretagne encore et des rites funéraires très chics au Japon. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin. On savait déjà que l'Europe avait fait des achats groupés de vaccins, on sait que ça va le faire pour le gaz. Troisième étape, les armes, c'est ce que nous racontera Angélique. Et puis 18h50, le monde d'après de Jean-Marc Four et l'Australie qui vote ce dimanche, le climat en tremble. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marc Roche.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Point, notamment à Londres, où vous vivez depuis plus de 30 ans maintenant. Vous êtes spécialiste notamment de la monarchie et vous signez Les Borgia à Buckingham. C'est publié chez Albin Michel, dans lequel vous revenez sur les grands événements récents de la monarchie en faisant dialoguer la famille royale. Alors on a bien compris que vous n'étiez pas sous la table, vous inventez, mais les mots viennent de vraies infos qui évidemment ont été vérifiées. Donc si ça se trouve, ces dialogues, ils se sont passés exactement ou pas loin de ce que vous écrivez. Et alors qu'on s'apprête à célébrer le jubilé, je le disais, que la monarchie sera célébrée, que la reine incarne cette famille qui sera fêtée. Vous en faites un portrait absolument terrible. Vous dites les Borgia, et en effet, sans le poison, mais s'il y avait du poison, il l'aurait utilisé plutôt deux fois qu'une, en fait, visiblement.
La comparaison avec les Borgia s'impose, la famille sanguinaire de la Renaissance italienne, parce qu'on retrouve les mêmes ingrédients, à savoir l'adultère. On a eu l'exemple du ménage à trois, Charles, Diana et Camilla. La débauche avec le prince Andrew et les accusations de viol sur mineurs. Et bien sûr, les luttes fratricides, meilleur exemple étant bien sûr la haine maintenant, entre William et Harry. Donc c'est les Borgia, c'est basé toutefois sur des faits réel, ma propre expérience de 30 ans à Londres et d'acquaintance avec les membres de la famille royale, mais aussi la presse et les experts. Mais la grande différence avec les Borgia, c'est qu'il n'y a pas de sang et il n'y a pas de poison.
Mais il y a des larmes. Et vous dites que vous racontez, à un moment vous avez cette phrase, vous racontez l'imposture. Et au fond, c'est l'imposture entre l'image et l'intérieur. Et le vrai paradoxe, et ça traverse tout votre livre, et c'est ce que je disais en introduction, il y a tout ça, et en même temps, cette famille royale, tout le monde les connaît, ces travers en Angleterre, bien évidemment, et en même temps, cette famille et la monarchie restent malgré tout le ciment de ce pays. C'est ça qui est assez fou, en fait.
Malgré les scandales et le règne de 70 ans d'Elisabeth II, qui a été émaillé de scandales qui auraient détruire le système, la monarchie est plus populaire que jamais alors qu'on célèbre le jubilé, les 70 ans de règne. Pourquoi ? Parce que la monarchie est le point fixe dans la tourmente. C'est-à-dire qu'au moment où tout va mal au Royaume-Uni, et au moment où le Royaume-Uni a du mal à se remettre de la pandémie, du Brexit et la guerre en Ukraine, eh bien la monarchie est un ciment. Et c'est un ciment également de l'unité nationale au moment où il y a des forces centrifuges, que ce soit l'Écosse, que ce soit en Irlande, et que le Commonwealth, c'est quand même en risque de rupture avec des tas de pays qui veulent devenir des républiques. Néanmoins, la reine Elisabeth II symbolise l'État, symbolise la continuité, symbolise la mémoire. La plupart des Britanniques, si pas la quasi-totalité, n'ont connu qu'elle comme chef de l'État.
Et ça marche aussi peut-être, parce qu'on comprend jusqu'à quel point en vélisant, elle est gardienne du temple, mais ça veut dire aussi gardienne de toute la rigidité, des règles à respecter, du protocole, on n'appelle pas ça l'étiquette chez les Anglais, mais vraiment de ça. Juste un tout petit extrait, par exemple, dans l'un de vos dialogues, c'est Kate qui dialogue avec Meghan, scène et qui dit « Les membres de la famille royale ne prennent pas un gramme, ils ne mangent pas, ils chipotent. L'ambiance est très collémentée. Pendant les repas, les convives parlent avec leurs voisins de gauche, même s'il est barbant. Puis, quand vient le plat principal, ils se tournent vers celui de droite. Au dessert, on peut choisir entre les deux, etc. etc. » C'est fait de tout ça, c'est fait de cet incroyable conservatisme, mais peut-être qui est tenu par la reine, mais peut-être que précisément parce qu'il y a cet incroyable conservatisme, ça tient, en fait.
Le Royaume-Uni est un pays conservateur, au sens où il y a des traditions, il y a des manières d'agir, il y a une courtoisie traditionnelle, et la reine symbolise ces valeurs de l'Angleterre d'antan, à savoir l'armée, la religion, le secteur caritatif qui est très important et qui est totalement dominé par la famille royale. Et tout cela fait une société qui ne correspond pas du tout à la société britannique actuelle, qui est une de méritocratie multiethnique. La reine symbolise l'Angleterre d'avant, blanche, anglo-saxonne et protestante. Pourtant, les Anglais sont nostalgiques au moment où ils sont confrontés à d'énormes difficultés. C'est un rêve d'une Angleterre. C'est un peu le même discours que celui tenu par les partisans du Brexit. Vous allez retrouver l'Angleterre d'avant. Et je crois que c'est important dans une société comme société britannique qui est à la fois le pilier moderniste et de la classe moyenne et ce pilier unique au monde qui est le pilier aristocratique.
Et en même temps, il est difficile à trouver cet équilibre. Vous faites dire à la reine à un moment cette phrase, vous lui faites dire ce qui me dérange, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit maintenant, c'est que les partisans de Harry et de Meghan appartiennent à la population progressiste. C'est un monde qui est à des années-lumière du nôtre. Donc elle sent malgré tout cet énorme décalage qui était le même décalage que l'époque de Diana d'ailleurs, quand on lui a reproché de ne pas avoir compris jusqu'à quel point le peuple avait un chagrin immense. Il y a ce même décalage. Donc à la fois, elle le sent, mais elle ne fait rien pour le combler, ce gap énorme entre elle et eux, entre elle et le peuple.
La reine d'Angleterre, en raison de la génération à laquelle elle appartient, elle est née en 1926, elle a connu la guerre, elle a connu une société terriblement codifiée, une société hiérarchisée, a du mal à se soutirer de ce monde dans lequel elle est à l'aise, qui est aussi le monde de la campagne, les chiens, les chevaux, les jardins et tout cela, et de se projeter dans l'Angleterre contemporaine. Ceci dit, son génie à la reine d'Angleterre, c'est de s'être toujours adaptée au changement, mais à sa manière. Doucement, sans fracas, mais il y a eu bien sûr la grande crise de Diana où elle n'a rien senti et le trône est tombé de son piédestal.
Avec la crainte qui est de cette nouvelle crise, on les voit bien, les allers-retours entre Meghan et Diana qui sont en permanence et qui sont vraiment autour de ces thèmes-là. Une Meghan qui parfois, enfin dans sa bouche en tout cas, vous mettez des choses assez terribles qui font qu'elle aussi d'ailleurs a peut-être du mal à comprendre dans quoi elle est tombée et ce hiatus entre ce qu'est la couronne et c'est que le peuple derrière. Elle parle à un moment de rénovation dans sa maison, vous lui faites dire des trucs assez terribles. Notre résidence doit être entièrement rénovée, on n'a pas les moyens et je me moque bien de qui règle la note, ton père ou l'État, c'est absolument pas mon problème.
Meghan n'a pas compris que la royauté a des comptes à rendre et qu'on n'est pas à Hollywood, que la royauté est financée par le contribuable et donc quand elle fait avec Harry moderniser Frogmore Cottage, leur demeure londonienne, et que c'est le contribuable qui paye quasi 3 millions d'euros, eh bien, le contribuable est offusqué. Et ça, elle ne comprend pas. Elle n'a jamais compris ce décalage entre la perception qu'elle avait de la royauté, conte de fées, carrosse, glamour, et la réalité qui est celle d'une royauté qui est quand même contrôlée économiquement de près par le Trésor.
Contrôlée de très près par le Trésor, et puis alors, on y a fait déjà illusion tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'ils se détestent, ces gens en fait, et on se demande comment tout ça tient debout. Dans l'un de vos dialogues, il y a William et Charles, c'est très très violent. William lui dit « Je refuse de mentir, tu n'as pas été un bon père, tu as été totalement absent de notre existence après la mort de mamie. » On a Camilla qui dit « Ce sont des malades, Anne est une garce cynique, Andrew est un imbécile qui ferait avec les pédophiles et Edouard est une chiffe-molle. » Vous croyez vraiment que c'est comme ça qu'ils se parlent les uns les autres? C'est très important.
Alors, les Windsor ne parlent pas comme vous et moi. Ils parlent froidement, ils sont flegmatiques, Il ne se met rarement en colère, mais entre eux, en revanche, il existe une concurrence à couteau tiré, parce que tous ses enfants, cousins, cousines, n'ont rien en commun. D'abord l'âge, il y a 10 ans entre les deux premiers enfants d'Élisabeth II et les deux derniers. Ils n'ont aucun point commun entre Andrew, qui lui est un militaire borné, et Charles, qui est un intellectuel, entre Édouard, qui aurait voulu être artiste, et la princesse Anne, qui est un garçon manqué, qui est glacial. Il y a rien en commun. Et en plus, ils se font concurrence, et en plus, le prince Charles est déterminé à les éliminer tous pour se concentrer sur le noyau dur avec l'accord de sa mère, qui est la reine, Charles, William et Georges. Et tous les autres vont être éliminés.
Donc tous les héritiers du trône, le reste n'a pas d'importance. En fait, ceux qui peuvent devenir rois, ok, les autres, on s'en
les
fiche complètement.
Les autres sont éliminés, sans doute en sachant bien que l'opinion publique veut une monarchie réduite, parce que ça coûte cher, tous ses cousins et cousines. Et d'ailleurs, on le verra bien lors du jubilé, sur le balcon, parce que le balcon est l'interface entre la royauté et le peuple, et c'est la reine qui décide qui va sur le balcon. Et il est quasi certain qu'il n'y aura que les royals qui travaillent au service de la monarchie, ce qu'on appelle les working royals, et que tous les autres ont été éliminés, parce que la reine Élisabeth II n'a peut-être pas lu Machiavel, mais elle est machiavélique.
À ce point-là,
la reine Élisabeth II, vous savez, a éliminé sans état d'âme au sein de sa famille tous les rebelles qui sont sortis des clous. Sa sœur Margaret, Diana, Meghan Harry, Andrew, qui est pourtant son fils préféré et qui a été privé de toutes ses fonctions de représentation. Elle est impitoyable. Pour elle, ce qui compte, c'est le régalien. Et le régalien l'emporte toujours sur les commodités personnel ou sur les commodités familiales.
Est-ce que c'est un traumatisme d'ailleurs du début pour la reine Élisabeth, parce qu'on le connaît ce traumatisme, le fait que toute cette branche de la famille, à cause de l'abdication de l'oncle, ait dû se retrouver famille régnante alors qu'il n'était ni préparé à ça, ni voué à ça. Donc est-ce que c'est un héritage de ce vieux traumatisme-là qu'elle trimballe depuis 70 ans, Élisabeth II ?
Élisabeth II a deux traumatismes. D'abord, l'abdication, elle qui ne devait pas être princesse héritière, se retrouve du jour au lendemain en 1936 avec l'abdication de son oncle David, se retrouve princesse héritière et amenée à régner. Sa vie en est totalement bouleversée. Et d'ailleurs, c'est de là que vient la cassure avec sa sœur Margaret, parce qu'elle va être favorisée, bien sûr, et par la cour et par ses parents. Et puis, il y a la mort de son père Georges VI, qu'elle adorait, et qui bien sûr n'était pas prêt à ceindre la couronne, qui est mort sans doute d'un cancer provoqué par le stress d'être roi, notamment pendant la guerre. Ah. Et ces deux traumatismes ont fait que la reine n'abdiquera pas. C'est un serment religieux, c'est une femme croyante. Et sans doute, dans son fort intérieur, elle se dit: au plus long sera mon règne, au plus court sera le règne de Charles, qui à son goût est trop interventionniste, trop intellectuel, trop progressiste. Aussi long sera le règne de William, que j'ai formaté à mon image. Conservatrice, fière de l'être.
Si les Anglais l'aiment autant aujourd'hui, est-ce que c'est aussi au fond que c'est le dernier vestige de ce Royaume-Uni immuable? Après elle, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent éclater. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'Écosse qui est à deux doigts, il y a l'Irlande du Nord même à certains égards, il y a le Pays de Galles, on l'a vu au moment du vote sur le Brexit, on a vu ces différents royaumes qui n'étaient pas si unis que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a vécu le Brexit, donc au fond, est-ce que ce que les Anglais célèbrent aussi à travers elle et à travers ce jubilé, c'est la bonne vieille Angleterre, sachant très bien qu'après elle, c'est fini. Et peut-être même fini d'ailleurs du Royaume-Uni.
Alors, il ne faut pas non plus être catastrophique. La reine a été la garante de l'unité nationale, mais il y a peu de chances qu'il y ait un référendum sur l'indépendance et en Écosse ou sur la réunification en Irlande, parce que ça, c'est une décision de Londres. Et après le vote sur le Brexit, il est peu probable qu'aucun gouvernement de gauche ou de droite ose à nouveau un référendum. Vous savez, les Anglais sont légitimistes, ils ne sont pas républicains. Donc le trône passera d'Élisabeth à Charles, et les Britanniques accepteront Charles comme nouveau souverain, mais avec une monarchie sans doute plus réduite et moins glamour que sous Elisabeth II.
Vous dites qu'ils ont détesté The Crown, ça on l'avait lu effectivement déjà ici et là, et c'est intéressant parce que ce qu'on comprend très bien, c'est qu'ils l'ont détesté parce que, selon eux, c'est pas la réalité, mais que c'est ce que les gens croient. Est-ce que vous diriez que l'image de la famille royale a été modifiée par cette série, et peut-être que ça a augmenté leur popularité, d'ailleurs contrairement à ce qu'ils imaginent, mais est-ce que leur image a changé depuis ?
Ce qui est terrible pour les Windsor, c'est que la jeune génération, surtout, ne connaissait rien des premières années du règne, et puis des années 70-80. L'affaire Diana, tout le monde connaît maintenant. Mais et The Crown montre une royauté quand même sous un visage pas très reluisant, qui est devenu le narratif aujourd'hui. C'est-à-dire toute une partie de la population pense que c'est la réalité. Qui sont aussi abominables que le montre The Crown. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait faire un The Crown, mais avec les jeunes et avec la génération d'aujourd'hui.
Eh ben, écoutez, abominables à certains égards, ils le sont chez vous. En tout cas, Marc Roche, ça s'appelle Les Borgia à Buckingham. C'est passionnant, c'est très marrant à lire aussi dans ces dialogues-là. C'est publié chez Albin Michel. On y reviendra, bien sûr, on en reparlera de cette reine et de ce jubilé, puisqu'on y sera, figurez-vous, à Londres, c'est dans une quinzaine de jours. Marc Roche, je vous remercie beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, ça se passe à Gaza, un an après la guerre qui a fait plus de 250 morts côté palestinien. La vie dans cette enclave, de plus en plus difficile, la crainte d'une autre guerre à venir aussi qui est très prégnante. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Logeni.
Des tempêtes de sable impressionnantes soufflent sur le Moyen-Orient et il y en aura de plus en plus avec le réchauffement climatique.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est vous Angélique Bouin depuis Bruxelles. Bonsoir Angélique.
Bonsoir, après avoir acheté en commun des vaccins, bientôt du gaz, va-t-on acheter ensemble des armes? Eh bien, c'est ce que propose la Commission européenne aux 27 États membres.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. L'Australie va voter samedi. Elle est aux premières loges pour subir le réchauffement climatique, elle aussi. Mais ses dirigeants politiques ne prennent pas le sujet au sérieux.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par la Nouvelle-Zélande avec Aldous Harding, Lone, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Ce soir est à Gaza, un an après cette guerre de 11 jours entre le Hamas et Israël qui a fait 14 morts en Israël, dont 13 civils et 260 morts à Gaza, civils et combattants. Dans l'enclave palestinienne gouvernée par le Hamas, le souvenir de ce conflit est encore très vif. Les Gazaouis, toujours confrontés à une immense pauvreté, s'attendent d'un jour à l'autre à une nouvelle guerre, sans compter les conséquences très concrètes pour eux de la guerre en Ukraine. La suite depuis Gaza, c'est Frédéric Mettezo qui raconte.
Ce jour-là, à Gaza, les ambulances défilent comme à la parade. Dans le quartier du grand hôpital Al-Shifa, les véhicules des secouristes sillonnent les rues pour rappeler aux habitants qu'ils sont toujours là, toujours présents, malgré leur propre traumatisme. Eyad est ambulancier au Croissant-Rouge.
J'avais 22 ans quand j'ai commencé ce travail. Ça fait presque 10 ans, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis agent des premiers secours et je prépare mon ambulance au mieux. Aujourd'hui, je dois m'assurer que nos services d'urgence seront prêts à tout moment pour toute escalade ou toute guerre à venir. Mon souvenir le plus douloureux remonte à la guerre de fin 2012. C'est immuable dans ma mémoire. J'ai sorti un enfant de la mosquée Ali dans le quartier de Zeytoun. Son corps était déchiqueté, ses entrailles sortaient et il est mort dans mes bras. Je n'ai pas pu l'empêcher de saigner ni m'occuper de lui. Il avait des blessures un peu partout, je n'ai pas pu mettre de couverture dessus. Il est mort dans mes bras, un enfant de 13-14 ans. Je n'ai rien pu faire pour lui et cet événement m'est resté en tête depuis cette guerre jusqu'à aujourd'hui.
Devant l'hôpital, une tente de deuil blanche est installée en hommage aux deux médecins de l'établissement tués l'année dernière. L'un de leurs collègues, le docteur Bassel Alaïla, pose un diagnostic inquiétant sur Gaza. Son double blocus israélien et égyptien, son taux de chômage au-delà de 50%, sa centrale électrique qui ne fonctionne que 6 heures par jour et son eau du robinet non potable.
La situation ici à Gaza est critique. Même du côté israélien, on ne sait pas exactement ce qu'est cette situation. Nous ne sommes pas des numéros, nous avons une dignité, nos propres décisions, notre propre responsabilité. Nous sommes des humains et devrions être traités comme des humains. Tout ça devrait s'arrêter de la bonne manière, en donnant aux gens leur dignité qui n'a pas de prix, en donnant aux gens le droit de vivre, même leur eau. Mon eau à la maison est salée.
Hiver 2008-2009, novembre 2012, été 2014, mai 2021, les conflits se succèdent avec une régularité effrayante. Les Gazaouis ne se demandent pas si une guerre aura lieu, mais quand. Les islamistes du Hamas qui tiennent Gaza disent qu'ils sont prêts, ils n'ont cessé de perfectionner leur arsenal. Bassem Naïm est membre du bureau politique du Hamas classé terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, mais il réfute ce terme.
La boîte à outils est ouverte. Ça va de la diplomatie jusqu'à la résistance armée.
Quitte à avoir encore des dizaines de morts.
Qu'est-ce que ça veut dire des dizaines de... Aucun peuple dans le monde, y compris en France, n'a résisté à l'occupation et n'a accédé à la liberté et l'indépendance sans en sacrifier beaucoup. Les gens en Ukraine se sacrifient beaucoup. C'est malheureusement la façon naturelle pour obtenir quelque chose. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que nous sommes des seigneurs de guerre et que nous aimons la guerre. Ce n'est pas une chose facile de perdre ton fils, ta fille ou ta famille. Mais parfois, tu n'as pas le choix.
Cette guerre en Ukraine, elle met les Palestiniens en porte-à-faux. La Russie est une alliée traditionnelle pour qui le Hamas n'est qu'un mouvement politique, mais il s'identifie aux Ukrainiens. Au-delà des considérations politiques, cette guerre en Ukraine est largement perceptible ici. Nous sommes dans une supérette dans le centre-ville de Gaza, près du souk. Ahmed et Abdul Al-Koudari ont constaté l'envolée des prix.
Chaque article a augmenté de 1 euro à 1,50 euro, ça dépend. Ils disent que c'est à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Par exemple, le riz était à 8,50 euros, il est arrivé à 10 euros. L'huile de cuisson est normalement à 2 euros le litre, maintenant c'est 2,80. Les gens en achetaient 3 litres, maintenant ils n'en achètent que 1 litre. Les ventes sont très limitées.
Est-ce que les gens vous demandent des crédits, vous demandent de payer plus tard ?
C'est normal de faire crédit aux gens que l'on connaît. Et c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, le consommateur regarde les offres. Il nous demande avant tout les produits proches de la date de péremption. Et quand on se rapproche de la date d'expiration, alors on fait des soldes, on casse les prix. Par exemple, des remises jusqu'à 50%.
Dimanche dernier, après 10 jours de fermeture, la frontière a été rouverte aux Gazaouis travaillant en Israël. Israël qui veut faire baisser la tension sociale et politique à Gaza en donnant un peu d'air à l'économie, insuffisant pour des Gazaouis durablement épuisés.
Frédéric Mettezo pour le reportage. Merci Frédéric. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Lougini. Et Sébastien, nous sommes sous une tempête de sable au Moyen-Orient. Rien de très original, sauf que le phénomène prend des allures de fléau climatique.
Oui, ces derniers jours, plusieurs pays du Moyen-Orient ont été touchés par des tempêtes de sable impressionnantes. Épais nuages de poussière orange, aveuglants et suffocants, qui ont recouvert Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, il y a deux jours, mais aussi Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Les tours les plus hautes du monde, notamment celle de Dubaï, avec ses 828 mètres, étaient à peine visibles. Des aéroports ont dû fermer, mais tout comme des écoles, des administrations, sans compter les malades. En Arabie, plus de 1300 personnes ont été hospitalisées pour des difficultés respiratoires mardi dernier. Et c'est encore pire dans un pays, en Irak. Ce chef de service d'un hôpital de Bagdad explique qu'il a reçu une quarantaine de cas de suffocation en quelques heures, souvent liés à des maladies chroniques comme l'asthme ou des bronchites. La plupart des malades sont des personnes âgées. L'Irak est l'un des pays les plus touchés par ces épisode de tempête. 9 tempêtes de sable depuis début avril, avec un pic de 5000 hospitalisations le 5 mai dernier. Derrière ce phénomène connu, mais de plus en plus intense, le réchauffement climatique et la politique environnementale indigente en Irak. La sécheresse accroît la désertification, notamment à cause d'une baisse historique des deux fleuves de la région, le Tigre et l'Euphrate, asséchés par les barrages en Turquie et en Iran. En face, les pouvoirs publics irakiens tardent à agir. 3 millions de dollars pour lutter contre la désertification, totalement insuffisant. D'ici 20 ans, l'Irak pourrait faire face à 272 jours de poussière par an.
Eh bien, direction l'Angleterre, confrontée, elle, à des déserts dentaires de plus en plus inquiétants.
Le manque de dentistes dans le secteur public en Angleterre devient préoccupant. Les journaux britanniques ont fait état ces derniers jours de nombreux témoignages de patients au sud de l'Angleterre, dans le Somerset, par exemple, obligés de se soigner eux-mêmes. Il y a cette femme qui a demandé à son mari de lui percer un abcès, ou cet homme qui a dû réparer lui-même sa prothèse dentaire avec un produit de pharmacie. Dans les deux cas, impossible de se rendre chez un dentiste privé beaucoup trop cher. Cette crise dentaire n'est pas nouvelle. Les journaux télévisés font des sujets dessus depuis longtemps. Des millions d'Anglais doivent attendre des mois, parfois jusqu'à 3 ans, ou parcourir des dizaines de kilomètres pour avoir un rendez-vous avec un dentiste remboursé par la Sécurité sociale, par le NHS. Comme on l'appelle, il faut dire qu'en 2 ans, près de 3000 dentistes ont quitté le système du NHS. 12% de dentistes en moins. Une pénurie liée à la fois au Brexit, à la pandémie du Covid et surtout au mécontentement des dentistes vis-à-vis de la Sécu qui, selon eux, ne les paye pas assez bien. Ils préfèrent donc passer dans le privé.
Et on finit au Japon, Sébastien, où les rites funéraires deviennent de plus en plus high-tech.
Car c'est de plus en plus compliqué pour les familles d'entretenir la mémoire de leur mort et le caveau familial situé souvent dans des temples, à la campagne, loin des villes. Alors des entreprises japonaises proposent désormais de pouvoir accéder à l'urne funéraire de son époux, de son frère, grâce à un système numérique et automatique. Ce cimetière, par exemple, est installé au cœur d'un élégant immeuble de Tokyo. On monte au 6e étage, on s'installe dans une cabine, on s'identifie avec une carte à puce, et face à nous, des portes coulissantes en bois raffiné. Et après quelques minutes, le temps qu'un transtocker automatisé aille chercher l'urne, comme dans un entrepôt, eh bien les portes s'ouvrent pour les laisser apparaître un magnifique coffret en pierre noire dans lequel reposent les cendres de notre proche. Cette sexagénaire japonaise vient régulièrement rendre visite à son mari. Au début, dit-elle, je me disais que ce genre de service pourrait manquer de chaleur et que je pourrais préférer une tombe traditionnelle. Mais maintenant, je trouve que c'est mieux d'avoir un lieu où je peux me rendre quand je veux pour prier, plutôt qu'un caveau que je ne pourrais jamais rarement visiter, car il est situé à 2 heures de train. Voilà, les traditions japonaises se perdent, mais peut-être pour le meilleur, sait-on jamais.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup Sébastien. Vous partez avec Sid Matters, High Life, sur France Inter. C'est un groupe français, mais ça s'entend pas.
In the summertime, trying hard with your summer clothes, you expected more. With your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. A thousand lonely streets, let me run away from the bus.
you spend your life waiting for a sign, waiting for a sign, leaving downtown in the old house. A thousand lonely years hiding in the ground, hiding in the ground, living downtown.
Matters High Life sur France Inter. Et direction Bruxelles, notre rendez-vous du jeudi dans Un jour dans le monde avec Angélique Boin.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union.
Général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique. Après des achats de vaccins en commun, du gaz en commun, va-t-on acheter des armes en commun ?
Eh bien, c'est ce que propose la Commission européenne aux 27 États. C'était totalement inimaginable il y a encore quelques mois, Fabienne, mais eh bien, le retour de la guerre sur le sol européen a provoqué un séisme. Le réveil est brutal. L'Europe doit se réarmer au plus vite, estime-t-on à Bruxelles. D'autant qu'en quelques semaines de conflit, pour aider l'Ukraine, on a vidé nos stocks d'armes, de matériel, véhicules, gilets pare-balles, casques. On paye des années de coupes budgétaires et de sous-investissement. Et il n'y a plus rien ou quasi rien dans les entrepôts, a écouté la Commission, qui publie ces chiffres. Entre 1999 et 1921, ces 20 dernières années donc, eh bien les Européens ont augmenté de 20% leurs dépenses militaires, contre 60% aux États-Unis, presque 300% en Russie et près de 600% en Chine. Alors vu le contexte et la menace russe, il y aurait donc urgence à réinvestir dans notre défense.
Mais c'est ce que s'apprête déjà à faire pas mal de pays européens, non, Angélique ?
Oui, absolument. Il y a déjà 200 milliards d'euros d'investissements annoncés, hein, dont 100 milliards rien que pour l'Allemagne. Et la Commission, eh bien justement, estime qu'il ne faut surtout pas que chaque capitale aille faire ses courses à droite à gauche, toute seule. D'abord pour éviter d'assécher le marché, hein, si Berlin raflait toutes les armes légères, par exemple, ou les munitions, eh bien, il n'y en aurait plus pour les pays baltes qui en ont sans doute un besoin plus urgent. Ensuite, elle pousse pour qu'on le fasse de manière intelligente, rationnelle. Comme pour les vaccins, on sera beaucoup plus fort à 27, plaide le diplomate en chef de l'Union européenne, Josep Borrell. Dans la stratégie défense qu'il a présentée hier, il propose que la Commission européenne coordonne cet afflux d'investissements et les canalise vers les priorités. C'est, dit-il, dans l'intérêt de tout le monde.
On doit faire des économies d'échelle, réduire les fragmentations et devons combler les écarts critiques que connaissent nos forces armées. Laissez-moi vous donner un exemple. Les Américains ont un seul type de char d'assaut, alors que nous en avons 12. Le coût logistique, les doublons, les problèmes d'interopérabilité, tout cela est une évidence. Nous devons dépenser plus, dépenser ensemble et dépenser mieux.
Et il y a des lacunes à combler, hein, nous dit la Commission, par exemple dans les systèmes de défense aérienne et antimissiles. Elle propose donc de créer eh bien, une task force, hein, comme on l'avait fait pour les vaccins, souvenez-vous, pour identifier les besoins de chacun, coordonner les achats, ça évitera une concurrence entre les 27, ça évitera de pousser les prix à la hausse également. Et puis elle propose aussi des achats conjoints et même un petit budget commun pour gérer l'urgence, mais dont l'ambition sera à terme évidemment de grossir.
Et les États-Unis sont déjà sur les rangs, non, Angélique ?
Oui, et ça inquiète d'ailleurs aussi la Commission, car depuis 2006, eh bien, autre chiffre, les 27 ont acheté 60% de leurs armes à des entreprises non européennes. Dans cette stratégie publiée hier, elle propose donc aussi des incitations financières pour soutenir les industries européennes de défense, en particulier dans les secteurs innovants, et puis les industries qui répondront à des appels d'offres communs à plusieurs États membres. Il faut savoir que 11% aujourd'hui des investissements en matière de défense sont réalisés à plusieurs États. Voilà donc une proposition très ambitieuse qui sera sur la table des 27 dirigeants lors de leur sommet fin mai. S'ils la valident, on lèverait quand même un véritable tabou. Hein, d'abord parce qu'il est quand même interdit, en tout cas sur le papier, à l'Union européenne de puiser dans le budget commun pour financer des opérations militaires et puis acheter en commun, alors que la défense, eh bien, c'est un secteur qui est tout en haut de la pile des éléments de souveraineté auxquels sont attachés les États. On sait bien que ça ne va pas être facile à faire adopter, hein. Mais eh bien, depuis le Covid, depuis le début de la guerre, Fabienne, les 27 ont lâché sur pas mal de tabous. On ne leur demande pas non plus de créer une armée commune, a un peu plaisanté hier Josep Borrell en salle de presse, en admettant que ça ne va évidemment pas être facile de convaincre les capitales. Mais on a quand même bien réussi à avoir une monnaie commune, alors tout est possible.
Merci beaucoup Angélique Boin depuis Bruxelles, tous les jeudis dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, ce soir vous nous emmenez à l'autre bout du monde, la tête en bas, l'Australie s'apprête à voter, élection générale après-demain samedi. Vu la multiplication dans le pays des catastrophes naturelles liées au réchauffement, on s'attendrait à ce que l'écologie domine les débats, et bien ça n'est pas le cas du tout, vous trouvez ça inquiétant même pour nous, et c'est votre monde d'après.
Oui, parce que s'il y a un pays qui est aux premières loges pour constater et subir le réchauffement climatique, c'est bien l'Australie, sur cette île continent de près de 8 millions de kilomètres carrés, sixième pays le plus vaste de la planète. Les épisodes météo de forte intensité se multiplient depuis 5 ans. Le dernier épisode en date, c'était fin février, des inondations sans précédent au sud de la grande ville de Brisbane sur la côte est. En 3 jours, tenez-vous bien, il est tombé l'équivalent de 70% de la pluviométrie annuelle. 70% en 3 jours, des trombes d'eau sans interruption. 3 mois plus tard, 1500 personnes n'ont toujours pas retrouvé de logement. On se souvient aussi bien sûr des gigantesques feux de forêt qui avaient ravagé le pays il y a 2 ans, provoquant la mort de plus de 30 personnes et de millions d'animaux, beaucoup d'oiseaux aussi, de koalas. Pendant l'été austral, les températures deviennent caniculaires. À l'intérieur du pays, les vagues de sécheresse se succèdent. Sur la côte, la sublime grande barrière de corail subit actuellement un nouvel épisode de blanchissement majeur, le sixième en 25 ans, et c'est de plus en plus fréquent. Donc la vie des habitants se complique sérieusement. Un exemple parmi d'autres, d'ici 2030... Une maison sur 25, un foyer sur 25 ne pourra plus être assuré. Il y a trop de risques d'inondations, d'incendies, de cyclones. Donc oui, en toute logique, le sujet aurait dû dominer tous les autres pendant cette campagne électorale. Oui.
Mais donc, c'est pas du tout le cas.
Non, mais pas du tout. Hein. C'est-à-dire, de quoi a-t-on parlé pendant cette campagne ? D'abord de pouvoir d'achat, des emplois, des impôts, un peu d'immigration, de la pandémie. Elle redémarre en ce moment en Australie avec l'arrivée d'Omicron. Et malgré une campagne de vaccination très efficace, le Premier ministre conservateur sortant Scott Morrison met aussi en avant ses succès diplomatiques. Par exemple, le pacte de sécurité AUKUS, vous savez, avec Londres et Washington, vous vous souvenez, à l'histoire des sous-marins au détriment de la France. Ça va plus loin, Scott Morrison n'en a pas grand-chose à faire en réalité du réchauffement climatique. Ce chrétien évangélique convaincu a fixé des objectifs très bas pour la réduction des émissions de gaz. Et lors des incendies de 2019 dont on parlait, après être parti en vacances à Hawaï, il avait eu cette phrase au retour en Australie. « Vous savez, moi je ne suis pas une lance à eau ». Bon, l'opposition travailliste, qui part légèrement favorite du scrutin de samedi, est un peu plus ambitieuse sur le climat. Elle promet 43% de réduction des émissions de gaz, mais pas plus que l'actuel pouvoir conservateur. Elle ne veut toucher à la patate chaude, les mines de charbon. C'est l'une des principales ressources du pays. L'Australie est le deuxième exportateur mondial de charbon. Ces mines créent des emplois. Donc l'Australie continue d'en ouvrir. Priorité à la rentabilité commerciale à court terme. Même l'opposition travailliste est d'accord là-dessus. Le climat attendra. Et en plus, ces mines sont souvent situées dans des circonscriptions électorales clés. Donc, pas touche, silence radio.
Mais alors, en quoi ça nous concerne, nous ?
C'est assez simple à comprendre. Avec ses émissions de gaz et ses mines de charbon, l'Australie ne pollue pas qu'elle-même. elle pollue tout le monde. Des pays du G7, l'Australie est le plus polluant en émissions rapportées au nombre d'habitants, devant le Canada et les États-Unis. Si on additionne les énergies fossiles qu'elle consomme elle-même et celles qu'elle exporte, ça finit par représenter près de 4% des émissions mondiales. C'est quand même considérable pour un pays de seulement 25 millions d'habitants. Et c'est encore plus choquant quand on parle d'un pays riche qui aurait les moyens quand même de faire autrement. L'Australie a vraiment tout sous la main pour développer massivement des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Elle commence à le faire. Il y a quelques mois, le sud du pays a même fonctionné uniquement grâce à l'énergie photovoltaïque pendant quelques heures. Mais le potentiel est là pour faire beaucoup plus. Sauf que le pouvoir politique attend de voir le reste du monde finalement faire le boulot à sa place. Les dirigeants actuels ne s'en cachent pas. Le marché mondial finira par rendre le charbon moins rentable à terme et à ce moment-là, on arrêtera le charbon. Pour ce pilote, quoi. La maison brûle et les pompiers font du jardinage. Pour le dire autrement, l'Australie est à la fois l'appartement témoin du réchauffement climatique et l'appartement témoin du déni et de l'aveuglement de l'homme sur le sujet.
Le Monde d'après et Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. La suite pour nous, c'est le journal de Jacqueline Fardel et puis le téléphone sonne. Vous passez la soirée avec nous, c'est une bonne idée, ne changez rien.